Mercredi.
Mercredi.
Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Tu connais même pas la notion de l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
Sur les chemins de l'école, parcours du combattant. Toi, pour te rendre à l'école, tu mets 10 minutes à vélo, 5 minutes en trottinette, 7 minutes à pied, une voisine t'emmène en voiture ou encore tu prends le bus scolaire. Dans d'autres pays du monde, aller à l'école est une véritable aventure, un véritable voyage parfois très dangereux. Par exemple, c'est l'histoire de Jackson, 11 ans, et de sa petite sœur Salomé, 7 ans. Tous les deux habitent au Kenya, c'est un pays en Afrique. Ils vivent dans une petite maison en paille, qui est très isolée dans la savane. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de meubles. À 5 heures du matin, chaque jour, il part pour l'école avec sa petite sœur donc. Ils vont parcourir 15 km pour aller à l'école. Ils vont faire ça le matin, mais également le soir pour rentrer chez eux. Ils sont chargés d'un petit bidon vide, d'un grand bâton et de leurs livres. Ils prennent le chemin pour l'école en courant. Tous les deux parcourent cette distance en risquant à chaque instant de croiser des animaux sauvages et qui ont faim. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent étudier. Ils risquent donc leur vie chaque jour. Leur envie de s'instruire et de découvrir plein de domaines dépasse la peur du risque. En emmenant sa petite sœur avec lui, qui est aussi très courageuse, Jackson a là une très grande responsabilité. Leur petit bidon vide leur permettra de ramener de l'eau le soir à la maison. At the window I watch a man with its power and power destroying beauty with all its heart. In the garden of Eden it's like warm fire. At the window I watch a man keeping tight his dog on the leash with all its heart. In the garden of Eden it's like warm fire. A warm fire. Mais j'ai une question. Est-ce que tu aimes faire de la tyrolienne? Certainement pour t'amuser, te procurer des sensations fortes. Eh bien, en Colombie, en Amérique du Sud, ce n'est pas la même chose pour certains enfants qui vivent dans la montagne, la tyrolienne. En effet, pour se rendre à leur école chaque jour, Pablo et ses camarades doivent traverser la rivière Rio Negro, en plein milieu d'une immense forêt. La rivière passe entre deux montagnes, et la tyrolienne, qui est à 230 mètres au-dessus du vide, c'est donc très très haut, fonce à 90 km/h, ce qui est donc très très rapide. Les enfants l'appellent le câble. Le câble de cette tyrolienne est âgé de 50 ans environ. Pour les tout petits enfants, un sac en toile solide est accroché au câble. C'est-à-dire que les grands frères et grandes sœurs mettent les plus petits dans un sac s'accroche à la tyrolienne et c'est parti pour la traversée périlleuse. En cas de fort vent, la tyrolienne ne glisse pas. Il faut se hisser avec les bras jusqu'à l'autre côté. C'est pénible, effrayant et très dangereux. Pour freiner, ils se servent d'un bout de bois, afin de ne pas se blesser ou se brûler. Simplement une corde avec un nœud. Il faut bien s'accrocher pour aller à l'école. Certains adultes disent qu'ils prennent le câble depuis 10 ans et qu'ils ont toujours autant peur. C'est important la récréation. C'est une pause que l'on s'accorde entre deux périodes de travail pour se divertir, pour se détendre. Elle se passe dans la cour. Elle permet de s'aérer, de se défouler, de bavarder, de jouer à son jeu préféré avec ses amis, de pratiquer son sport favori, mais aussi ça permet de mieux se concentrer en classe et donc de mieux réussir à l'école. Le cerveau humain, pour avoir une meilleure mémoire et réussir à mieux se concentrer, a besoin de pause. Selon l'article 31 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la récréation est un droit et non un privilège.
Quand on arrive à l'école, on peut jouer aux billes. Après, on rentre. Après, à 10h10, on peut jouer aux billes. Après, vers 10h28, un truc comme ça, on rentre dans la classe. Après, à 11h45, on a une récréation de 2h qui se termine à 14h. Et après, on a une récréation à 15h05 qui dure 20 minutes, 25 minutes. Et après, quand il y a l'étude, ça se termine l'école à 16h15. Et on a une récréation de 35 minutes. Mais à un moment, on doit faire l'appel, du coup, ça nous... Ça enlève à peu près 5 minutes.
Pendant la récréation, plein d'enfants jouent aux billes. Et ça depuis plus longtemps que tu ne le crois. Le mot bille vient du mot globille. Ça veut dire un petit globe. La bille la plus âgée au monde aurait été retrouvée dans la tombe d'un enfant égyptien au temps de l'Antiquité. On a retrouvé, conservé, également des pistes de billes dans les ruines des villes antiques. Un peu plus tard, les Romains joueront aux billes avec des noix, qu'ils appelleront le jeu de noix. La règle. L'enfant, soit debout, fait tomber les noix d'un seul coup, soit couché, les vise du doigt. Aujourd'hui, il existe pas mal de façons de jouer aux billes, le but étant de les lancer dans un trou ou de tiquer une autre. Ce sont les enfants qui se transmettent eux-mêmes les règles. Il n'y a pas ou peu d'intervention des adultes.
Un calot papier de chocolat, c'est le calot le plus rare de l'école. Ça, c'est un calot fait, c'est pas très rare, ça vaut un calot collector. C'est une pépite jaune. Ça, c'est un boulet tempête, c'est bleu avec des rayures. Ça, c'est un dauphin, mais il est un peu cassé. Parce que comme elle est petite, elle est plus vite. Ça, c'est un tourbillon. Il y a des traits autour, un calot. Il y a des traits autour et un tourbillon à l'intérieur. Et je vous ai pas dit que les boulets, c'était plus grand qu'un calot. Ça, c'est un calot Speedy. Je fais la collection. Il y a plein de rayures en zigzag autour. Il y a des bulles qui font une tempête à l'intérieur. Je fais la collection et j'en ai 6. Ça, c'est un volcanium. C'est un calot et tacheté de vert, de blanc, de vert clair, de jaune et un tout petit peu de noir. Ça, c'est des biplates. C'est des fois on dit tu me joues une biplate. Ouais, mais on joue en calot parce que jouer avec des biplates c'est difficile comme elles sont aplaties sur le sol. Voilà. Sinon j'ai des petits volcaniums aussi. Lui c'est que rouge et orange, elle est super belle. J'ai des petites princesses. C'est des pépites bleues. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 princesses et un calot princesse aussi. Là les dragons d'eau, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai pas acheté de paquet. Hein. Une fois j'étais venue avec un dragon d'eau, j'ai gagné tous ces dragons d'eau. Et pareil pour les princesses. Mais il y a Esteban, un ami à moi, qui m'en a donné une. Là, c'est des Speedy. Ça, c'est des pépites de nuit. J'en ai pas en calot, mais j'en ai un petit. Et ça vaut, en calot, ça vaut une pépite chocolat. C'est la bille avec la pépite chocolat la plus rare de l'école. Voilà. Ça, c'est un Black Hold. C'est tout noir avec un gros trait blanc et un gros trait rouge. Ça vaut une Speedy. Ça, c'est un dragon d'or. C'est bleu et jaune, brillant. Ça, c'est un dragon de trèfle. Dragon d'or de trèfle. Il y a une couleur trèfle, du bleu et du doré. Ça, c'est une pépite au lait rouge. J'ai perdu une canarie noire en calot. C'est noir avec... Avec un trait jaune phosphorescent et un trait blanc phosphorescent. Déjà quand t'es en plein combat, il n'y a pas le droit d'arrêter. Si t'arrêtes, ça veut dire que tu donnes la bille à l'autre. Et j'aime pas trop jouer sur le béton. De un, ça les abîme et ça va trop vite. On peut pas bien viser, ça bouge tout le temps avec les cailloux.
Mercredi, tu connais pas mercredi? Enfin, c'est trop bien. C'est tout.
Alors, la veille de la rentrée, en général, je fais pas grand-chose parce que j'ai déjà préparé ce qui est à préparer. Je fais juste mon petit sac. Je mets ma trousse, mon cahier et mon classeur avec mes fiches, avec le prénom des élèves. Je sais déjà quels élèves j'ai. Mais tout est prêt. On est déjà allé à l'école. On connaît les collègues. On sait quelle classe on va avoir. Donc on attend juste le lendemain. Mais j'aime bien arriver tôt le lendemain, par contre, à l'école. Genre trois quarts d'heure, voire une heure avant de commencer. Parce qu'il y a toujours des petites choses à peaufiner, faire des petites photocopies, écrire l'emploi du temps au tableau. C'est important, c'est le premier jour, le premier contact avec les enfants. Donc c'est important que ça se passe bien. Bonjour, on on se salue, on fait un petit tour de table, voir un peu les prénoms de chacun. Et puis on commence tout de suite, hein. On prépare les premiers cahiers, on range les affaires, on défait le cartable, on regarde tout ce qu'il y a dedans, parce qu'en général, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le cartable. Des choses utiles et des choses un peu moins utiles. Donc c'est important de faire le tri. J'aime bien être prêt, on va dire, un bon quart d'heure avant que les enfants arrivent. Comme ça, je vais voir les autres collègues. Hop, je les vois qui sont un petit peu peut-être en galère, certains. Mais non, d'être juste là, posé dans la classe, il n'y a pas de bruit encore. C'est calme. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Ah, Nova Trousse, j'ai... ça change en fait presque d'année en année. En fait, j'ai toujours mon crayon à papier. Déjà, j'ai une trousse lama. Ça, c'est important. C'est ma petite trousse lama, c'est mon animal totem. J'ai mon crayon à papier, j'ai un peu de colle, j'ai un compas que j'utilise jamais. J'ai toujours des stylos noirs. Et après, j'ai des stylos de couleurs différentes, mais en général, j'ai pas de rouge. J'utilise pas le rouge. Je vais utiliser du orange. Quand j'ai plus d'orange, je vais prendre, je sais pas moi, du violet par exemple. J'utilise pas trop de vert non plus. Mais j'ai des feutres voilà, de couleurs un peu différentes. En fonction de. Je fais pas d'achat particulier avant la rentrée. Donc des fois, ça va être en fonction de ce qu'il y a dans la classe. Ou alors de ce que j'ai pu acheter avant, des stocks qui me restent. Mais voilà, et qu'est-ce que j'ai autrement? Une petite gomme, ma règle, j'ai mon disque dur externe avec tous mes trucs dedans. Attention, c'est la catastrophe si jamais je l'oublie celui-là. Ça m'est arrivé 2-3 fois, c'est compliqué. Donc j'ai ça, et qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon cartable? J'ai mon petit tube pour le repas du midi, et un grand cahier. Et c'est à peu près tout. En fait, j'ai pas grand-chose, au final.
T'as quand même un compas qui sert à rien.
J'ai quand même un compas qui sert à rien.
Donc toi aussi, t'as des trucs dans ton cartable qui sert à rien.
Oui, moi aussi, ouais. C'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi que je vide mon cartable avec les enfants et ma trousse pour que je leur montre ce que j'ai qui me sert à rien. Il y a des choses que j'ai pas, par contre. Par exemple, des feutres de couleurs, ça peut être pas mal. Des crayons de couleurs, tiens, j'y pense. Des crayons de couleurs, ça peut être intéressant d'en avoir aussi. Ouais, pas mal de choses que j'ai pas, en fait. Des ciseaux. J'ai pas ça. Ah, si, une souris aussi. Une souris. Non, pas la souris, pas l'animal, mais la souris pour effacer. Ça, c'est pratique.
Bonnes vacances à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jérôme. Au revoir, Marie.
Au revoir,
Laetitia. Au revoir. Au revoir. Allez. Bon, je garde ces deux petits alors. Au revoir, Laura.
Le cancre de Jacques Prévert.
Le cancre par Jacques Prévert.
Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il... Voilà, j'ai raté. Fais pas de bite, ça me perturbe. Okay. Je vais le faire comme ça va être plus simple. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Voilà.
Chagrin d'école, de Daniel Pénac. Donc j'étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi par l'école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n'étais pas le dernier de ma classe, c'est que j'en étais l'avant-dernier. Champagne ! Fermé à l'arithmétique d'abord, aux mathématiques ensuite, profondément dysorthographique, rétif à la mémorisation des dates et à la localisation des lieux géographiques, inapte à l'apprentissage des langues étrangères, réputé paresseux, leçons non apprises, travail non fait... Je rapportais à la maison des résultats pitoyables que je ne rachetais ni à la musique, ni le sport, ni d'ailleurs aucune activité parascolaire.
Tu comprends ? Est-ce que seulement tu comprends ce que je t'explique ?
Je ne comprenais pas. Cette inaptitude à comprendre remontait si loin dans mon enfance que la famille avait imaginé une légende pour en dater les origines. Mon apprentissage de l'alphabet. J'ai entendu dire qu'il m'avait fallu une année entière pour obtenir la lettre A. La lettre A, en un an. Le désert de mon ignorance commençait au-delà de l'infranchissable B.
Pas de panique. Dans 26 ans, il possédera parfaitement son alphabet.
Ainsi ironisait mon père pour distraire ses propres craintes. Bien des années plus tard, comme je redoublais ma terminale à la poursuite d'un baccalauréat qui m'échappait obstinément, il aura cette formule.
Ne t'inquiète pas. Même pour le bac, on finit par acquérir des automatismes.
Ou, en septembre 1968, ma licence de lettres, enfin en poche...
Il t'aura fallu une révolution pour la licence. Doit-on craindre une guerre mondiale pour l'agrégation ?
Cela dit, sans méchanceté particulière, c'était notre forme de connivence. Nous avons assez vite choisi de sourire, mon père et moi. Mais revenons à mes débuts. Dernier né d'une fratrie de quatre, j'étais un cas d'espèce. Mes parents n'avaient pas eu l'occasion de s'entraîner avec mes aînés, dont la scolarité, pour n'être pas exceptionnellement brillante, c'était déroulé sans heurts. J'étais un objet de stupeur et de stupeur constante, car les années passaient sans apporter la moindre amélioration de mon état d'hébétude scolaire. « Les bras m'en tombent, je ne reviens pas !» me sont des exclamations familières, associées à des regards d'adultes, où je vois bien que mon incapacité à assimiler quoi que ce soit creuse une abîme d'incrédulité. Apparemment, tout le monde comprenait plus vite que moi.
« Tu es complètement bouché !»
Un après-midi de l'année du bac, une des années du bac, mon père me donnant un cours de trigonométrie dans la pièce qui nous servait de bibliothèque, notre chien se coucha en douce sur le lit derrière nous. Repéré, il fut sèchement viré.
« Dehors le chien, dans ton fauteuil !»
5 minutes plus tard, le chien était de nouveau sur le lit. Il avait juste pris le soin d'aller chercher la vieille couverture qui protégeait son fauteuil et se coucher sur elle. Admiration générale, bien sûr, et justifiée. Qu'un animal pût associer une interdiction à l'idée abstraite de propreté et en tirer la conclusion qu'il fallait faire son lit pour jouir de la compagnie des maîtres, chapeau évidemment, un authentique raisonnement. Ce fut un des sujets de conversation familiale qui traversa les âges. Personnellement, j'en tirerais l'enseignement que même le chien de la maison pigeait plus vite que moi. Je crois bien lui avoir murmuré à l'oreille
« Demain, c'est toi qui vas au bahut, lèche-cul !»
Mercredi, l'émission des enfants.
Daniel Pénac est un écrivain français. Sa scolarité fut désastreuse. Dans cet extrait du livre intitulé « Chagrin d'école », il explique qu'il a mis un an à comprendre la complexité de la lettre A de l'alphabet. Cancre, il se dit donc être victime de dysorthographie. Alors même moi j'ai du mal à le dire. De dysorthographie, enfantine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, c'est être très lent à faire les choses. Faire beaucoup de fautes d'orthographe, recopier, n'empêche pas de faire des erreurs. On inverse certaines lettres dans un mot. Au lieu de dire « set », on dit « step ». Dans ce livre, Chagrin d'école, il parle donc de l'école et de son point de vue de mauvais élève. Il le dit lui-même. Quand il était à l'école, il ne comprenait rien à rien. Dernier de sa classe, il se demandait parfois ce qu'il faisait en cours. Car ça aussi, il ne le comprenait pas. Quand il était avant-dernier, son père faisait sauter le champagne, comme il le dit dans son livre. C'est bien sûr une expression. Il se souvient de Céline, maîtresse d'école. Elle disait « Vous savez, une classe, ce n'est pas un régiment. Mais une classe, c'est un orchestre de musique, avec tous les instruments. Et si vous avez hérité du petit instrument, le triangle, qui ne sait rien faire que ting-ting, eh bien l'essentiel, c'est de savoir lui faire faire ting-ting, au bon moment, de façon à ce que ça entre dans une harmonie d'ensemble. » Je trouve que c'est une très belle vision d'une classe. Pour revenir à Daniel Pénac, il était peut-être mauvais élève, mais dans sa vie d'adulte, il deviendra professeur de français. Dans cette émission sur la rentrée, vous avez pu entendre quelques chansons. Il y avait Goldfrapp avec sa chanson Happiness et à la fin un extrait sonore du film Être et avoir. Vous avez pu entendre aussi la chanson Wintergatan de la Marble Machine. C'est une machine incroyable. C'est tout un système avec des tapis et 2000 billes en plomb qui tombent sur un xylophone, une guitare, des cymbales, et qui font une chanson. Je vous conseille de voir cette vidéo sur Internet. C'est incroyable.
Mercredi.
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 Mercredi.